Octave Mirbeau, Mémoire pour un avocat. Mon cher maître, vous m'avez demandé de vous fournir ce que vous appelez des éléments pour la plaidoirie que vous devez prononcer dans mon instance en divorce. Les voici. Je vous les envoie tels quels, un peu pêle-mêle, il me semble, mais avec la grande habitude que vous avez de déchiffrer les dossiers les plus compliqués, vous aurez vite fait de rétablir l'ordre qui manque à ces notes hâtives. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète ici, ne vous attendez pas à des récits dramatiques ou croustilleux, ainsi qu'en comportent d'ordinaire ces procès. Je n'ai rien à reprocher à ma femme, du moins rien de ce que la loi et les bienséances mondaines peuvent considérer comme délictueux ou attentatoire à l'honneur d'un homme. Sa conduite fut toujours parfaite, et je crois bien, c'est là qu'est le côté défectueux de l'affaire, que jamais une mauvaise pensée, jamais un désir impur n'entra dans son âme. Elle se montrait même avec moi très réservée, très indifférente, devrais-je dire, sur cette sorte de choses. J'ajoute que souvent j'eus à souffrir de sa naturelle froideur, car elle est très jolie et j'étais plein de passion. Ce que je reproche à ma femme, c'est de comprendre la vie d'une façon autre que moi, d'aimer ce que je n'aime pas, de ne pas aimer ce que j'aime, au point que notre union, loin d'être un resserrement de sensations pareilles et de communes aspirations, ne fut qu'une cause de lutte perpétuelle. Je dis « lutte » et j'ai tort. Ce mot définit très mal notre situation réciproque. Pour lutter, il faut être deux, au moins. Et nous n'étions qu'un seul, car j'abdiquais tout de suite entre les mains de ma femme ma part de légitime et nécessaire autorité. Ce fut une faiblesse, je le sais, mais que voulez-vous? J'aimais ma femme, et je préférais l'effacement momentané de ma personnalité maritale à la possibilité de conflits immédiats que tout dans le caractère de ma femme me faisait prévoir dangereux et violents, irréparables peut-être. Cela remonte au jour même de notre mariage. Il avait été décidé que nous ferions un voyage dans le midi de la France. Ma femme s'enthousiasmait à cette idée. « Oh, le midi, disait-elle, le ciel bleu, la mer bleue, les montagnes bleues, et tous ces paysages de lumière que je ne connais pas et qui doivent être si beaux, comme je serais heureuse là-bas !» Et elle battait des mains, la chère âme, et elle rayonnait de joie, comme un petit enfant à qui l'on a promis de merveilleuses poupées. Je me félicitais, et tout le monde autour de nous, dans nos deux familles, se félicitait que j'eusse élu une âme si parfaitement concordante à la mienne, car nous aimons les mêmes poètes, les mêmes paysages, la même musique, les mêmes pauvres. Nous partîmes, comme il est d'usage, après la cérémonie. À peine installé dans le wagon que j'avais retenu à l'avance et décoré de ses fleurs préférées, ma femme tira de son nécessaire de voyage un livre et se mit à lire. « Ma chère Jeanne, insinuai-je tendrement, ne trouvez-vous pas que ce n'est guère le moment de lire ?»« Et pourquoi ne serait-ce pas le moment » fit-elle, d'un ton et avec des regards que je ne lui connaissais pas et qui donnèrent à son visage une expression de dureté imprévue. Je répondis, troublé, « Mais, chère petite femme, parce que nous avons, ne vous semble-t-il pas, bien des choses à nous dire, maintenant que nous sommes seuls, tout à fait. »« Eh bien, mon ami, je ne vous empêche pas de les dire. » J'éprouvais un froid au cœur, un froid douloureux. Ce livre m'était réellement comme une personne qui se fût maladroitement interposée entre ma femme et moi. Et cette voix qui me parlait, une voix brève et coupante, je l'entendais pour la première fois. Et elle me rendait, pour ainsi dire, cruellement étranger, ce visage charmant, cette bouche, ses yeux, ses cheveux, toute cette fraîcheur de jeunesse, toute cette beauté d'amour autour de quoi mes rêves avaient si follement, si gravement, si infiniment vagabondé. Je demandais en tremblant, car j'avais alors la sensation de je ne sais quoi de lointain entre ma femme et moi. Et quel est donc, cher petit cœur, ce livre que vous lisez avec tant d'attention ? « Oh, le dernier roman de Monsieur de Tinsault, » fit-elle. « Oh, comme vous avez dit, oh !»« Comme vous avez dit, oh, il ne vous plaît pas, Monsieur de Tinsault ?»« Pas beaucoup, je l'avoue. »« Oh, moi, je l'adore. Je trouve qu'il écrit divinement. » Puis tout à coup, « Oh, que c'est fleur en tête, mon ami !» Et les détaillant un peu étonnés, comme si elle ne les eût pas encore remarqués, elle ajouta d'une voix de reproche contenue « Autant de fleurs, mon ami, mais c'est de la folie !»« Mais ce n'est pas de la folie, Jeanne, puisque vous les aimez !» Elle répliqua « Je n'aime pas les prodigalités. » Durant le voyage, jusqu'au soir, je tentais vainement d'intéresser mon esprit au paysage que nous traversions. Elle levait un instant les yeux vers la portière et les rabaissait ensuite sur son livre en disant « C'est très joli, mais des arbres, des champs, des maisons comme partout. » « Jeanne, Jeanne, ma chère petite Jeanne, m'écriai-je, je voudrais que vous aimiez la nature. » Je voudrais voir votre âme s'exalter aux beautés de la nature. Mais certainement, mon ami, j'aime la nature. Mais comme vous êtes drôle. Et pourquoi me dites-vous cela avec une voix si déchirante? Je ne peux pourtant pas me passionner à des choses que je vois tous les jours. La nuit vint. Ce fut un désenchantement pour moi. Je ne trouvais rien des ivresses que je m'étais promise. Le lendemain se passa à Nice, en promenade délicieuse, dans les rues, au bord de la mer, à travers les montagnes. La nouveauté de ces horizons lumineux, la douceur changeante de la mer qu'une petite brise agitait légèrement, l'inhabitude de ces spectacles urbains qui font de cette curieuse ville une sorte de gare immense ou de gigantesques paquebots en route vers on ne sait quelle folie, tout cela dissipa un peu ce que la veille j'avais entrevu de menaçantes nuées sur le front de ma femme et dans le ciel profond de ses yeux. Elle fut gaie, d'une gaieté méthodique, il est vrai, et qui craint de se dépenser tout en une seule fois, d'une gaieté sans émotion, sans une de ces émotions qui vous révèlent tout à coup, par l'entremise d'un visage heureux, ce qui s'allume de flammes de joie cachées, de trésors de bonté enfouis dans le cœur d'une femme. Mais je ne m'attardais pas à des réflexions inquiétantes sur cette réserve que je m'efforçais de prendre pour de l'élégance d'esprit. Nous rentrâmes à l'hôtel le soir, tard, un peu fatigués, un peu grisé par cette chaleur, par cette lumière. Son manteau et son chapeau enlevés, ma femme s'installa devant une table, tira de son nécessaire une foule de petits carnets, un encrier, une plume, et me dit « Maintenant, soyons sérieux. Qu'avez-vous dépensé aujourd'hui, mon cher trésor ?» Je fus abasourdi par cette question. « Je n'en sais rien, mon amour, » répondis-je. « Comment voulez-vous que je le sache ? Et puis vraiment, est-ce bien l'heure ?»« Mais c'est toujours l'heure d'avoir de l'ordre, » formula-t-elle. « Voyons, rappelez-vous. » Ce fut une longue et fastidieuse besogne. Les comptes terminés et la balance établie, il arriva qu'il manquait 10 francs, 10 francs dont on ne pouvait retrouver l'emploi. Ma femme fit et refit les comptes, la bouche soucieuse et le front obstiné, un front où, dans la pureté radieuse d'un épiderme nacré, se creusaient 2 plis horribles, comme en ont les vieux comptables. Ah, parbleu, je me souviens, m'écriai-je, pour en finir avec une situation qui m'était douloureuse. Ce sont les 10 francs de pourboire que j'ai donnés au garçon du restaurant. 10 francs de pourboire ? S'exclama ma femme. Est-ce possible ? Mais je pense que vous êtes fou. Et après m'avoir longtemps examiné d'un regard aigu, d'un regard inexprimable, où il y avait plus encore d'étonnement que de blâme, elle ajouta « Ah, voilà ce que je craignais. Vous n'avez pas d'ordre, mon ami. Vous ne savez pas ce que c'est que l'argent, mon cher trésor. Eh bien, dorénavant, c'est moi qui aurai les clés de la caisse. Ah, nous serions bien vite ruinés avec vous. 10 francs de pourboire. » Se levant, après avoir remis méthodiquement carnet, encrier et plume à leur place, respectives dans le nécessaire, elle me tapota les joues, et moitié tendre, moitié grognonne, elle dit « Oh, vilain petit mari, qui ne sait pas ce que c'est que l'argent !» Cette nuit-là, la seconde de notre mariage, nous nous endormîmes comme un vieux ménage. Je ne vous ferai pas le récit de ces quelques semaines passées dans le midi pour célébrer notre mariage. Les 1000 détails de mon asservissement conjugal, tous ces menus faits quotidiens par quoi s'acheva l'abandon de mon autorité, non seulement de mon autorité, mais de ma personnalité morale, entre les mains d'un autre, encombreraient ces notes de redites inutiles et fatigantes. Ce que je puis vous dire, c'est que je revins de ce voyage que j'avais rêvé si plein de bonheur, de fantaisie généreuse, de volupté violente, complètement annihilé. J'étais parti avec quelque chose de moi, un esprit à moi, des sensations à moi, une façon à moi de comprendre, de pratiquer la vie domestique, l'amour, l'altruisme. Je rentrais avec rien du tout de cela. La formation complètement transformée de mon individu, agissant et pensant, s'était accomplie avec une si grande rapidité qu'il ne m'avait plus été possible de lutter, de me défendre contre ce dépouillement continu de mon être. D'ailleurs, l'eussé-je pu que je ne l'aurais pas tenté. J'ai horreur de la lutte. Et puis ma femme avait un tel regard de volonté que lorsque ce regard tombait sur moi, je me sentais tout à coup comme paralysé. Il y avait dans toute sa personne, sous le rayonnement de sa chair et l'éclat de sa jeunesse en fleurs, une telle expression de décision irrésistible que, tout de suite, j'avais compris que la lutte équivalait à la rupture. Or, cela, je ne le voulais pas, je ne le voulais à aucun prix. N'allez pas croire qu'elle ne m'aimait pas. Je suis convaincu, au contraire, qu'elle m'aimait beaucoup, mais à sa manière. Elle ne m'aimait ni comme un amant, ni comme un époux, ni comme un ami. Elle ne m'aimait même pas comme on aime une bête. Elle m'aimait comme une chose, à la elle, inerte et passive, comme un meuble, une boîte d'argenterie, un titre de rente. Je lui appartenais, j'étais sa propriété, cela dit tout. Dans le sentiment qu'elle éprouvait pour moi, nulle émotion, nulle tendresse, jamais l'idée d'un sacrifice si insignifiant fut-il. Elle disposait de moi, sans mon assentiment, de mes goûts, de mon intelligence, de ma conscience, selon la direction de son humeur, mais le plus souvent, selon les calculs de sa vie domestique. Je faisais partie de sa maison et rien de plus. J'occupais une place importante, il est vrai, dans la liste de ses biens meubles ou immeubles, et c'était tout. Et c'était beaucoup, car ma femme était une propriétaire soigneuse et brave. Si elle avait été menacée dans la possession, dans la propriété de son mari, avec quelle énergie, avec quelle vaillance elle l'eût défendue, contre les attaques, contre les dangers, contre tout, jusqu'à l'oubli total d'elle-même. Et dire que durant les longs mois, les mois bénis, les mois d'impatience sacrée, où je fus admis à lui faire ma cour, je n'ai rien vu de tout cela. aveuglé par l'amour, je n'ai vu que sa beauté. Je n'ai rien compris à son regard, si étrangement, si implacablement dominateur. Je n'ai rien compris à sa bouche, si admirablement tentatrice, et où je surprends maintenant des plis terribles qui me glacent l'âme et qui ne parviennent à s'effacer que sous l'humilité de ma soumission, que sous la lâcheté de mon obéissance. Il avait été convenu que nous habiterions une jolie propriété que je tiens de ma mère et que j'avais aménagée avec passion et selon mes goûts. J'étais fier de ce petit coin de terre, pour ainsi dire créé par moi, et où j'avais mis ce que je pense avoir en moi de sensibilité artiste et de conception de poète. Je l'avais encore embelli pour la venue de ma femme, voulant un décor de jardin et de maison digne de sa beauté. Le lendemain du jour où nous nous installâmes, ma femme me dit, après une promenade rapide, « Oh, vous avez fait, mon ami, dans ce jardin et dans cette maison, des folies que ne comporte pas notre situation de fortune. Tout cela est beaucoup trop lourd pour nous, et je ne saurais prendre la responsabilité d'une telle administration. Certes, je loue votre goût, il est parfait. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas le proportionner à nos ressources. Vous allez, mais sans vous préoccuper de savoir comment vous pourrez faire face à de telles exigences. Ah, les hommes d'artistes, cela n'entend rien à la vie pratique. » Elle eut un sourire amer, mais sa voix restait douce, quoique un peu brève, et son front se barrait de ses plis, signe de calcul profond et de ténébreuses arithmétiques. Elle le continua. « Je suis d'avis que nous devons simplifier notre état de maison et supprimer beaucoup, beaucoup de choses qui me paraissent inutiles. D'abord, qu'avez-vous besoin d'un jardinier ? Le fumier, les semences, l'entretien et les gages de deux hommes, ce qu'ils gâchent, ce qu'ils volent, font que les légumes vous reviennent à des prix excessifs, fous, invraisemblables. Avez-vous seulement calculé ce que vous coûte un navet ou une tomate? Je parie que non. Nous planterons des pommes de terre dans le potager et nous vendrons le surplus de notre provision. Quant aux fleurs, une pelouse devant la maison avec une corbeille de géranium et quelques rosiers, ça et là, cela doit suffire à vos besoins d'esthétique florale. Nous ferons du foin, du bon foin avec le reste. Notre cheval aimera cette combinaison. Et comme en ces sortes d'exécutions, je pense qu'une décision prompte est tout ce qu'il y a de meilleur, je vous prierai de signifier aujourd'hui même son congé à votre jardinier. » J'étais atterré. « Mais, ma chère Jeanne, répondis-je en balbutiant, vous n'y songez pas. Mon jardinier est un vieux jardinier. Il a servi ma mère pendant 15 ans. Voilà 5 ans qu'il est avec moi. C'est le meilleur, le plus honnête, le plus dévoué des hommes. Il est en quelque sorte de la famille. » Elle répliqua, « Eh bien, votre mère ne l'a-t-elle pas payé? Vous-même ne l'avez-vous pas payé? On ne lui doit rien, j'imagine. Que demande-t-il ? « Ah, aujourd'hui même, vous entendez, mon ami, je ne veux plus le revoir demain. » C'est en tremblant, comme si j'allais commettre une mauvaise action, un crime, que j'abordais dans le jardin le pauvre vieux jardinier. Juché sur une échelle, je me souviens, il taillait ses espaliers. Et brusquement, avec une voix dure, avec une voix forte, pour ne pas entendre les voix de reproche qui montaient du fond de mon âme en grondant. « Il faut vous en aller, père Valentin, » criai-je. « Je ne vous garde pas, je ne puis plus, vous. » Le père Valentin chancela sur son échelle. Je crus qu'il allait tomber. « Vous me gardez plus, monsieur Paul, » bégaya-t-il. « Vous n'êtes plus content de moi ? Je vous ai peut-être fait du tort. Non, Père Valentin, mais il faut vous en aller. Il faut vous en aller tout de suite, tout de suite. Jamais je ne reverrai sur une figure humaine l'expression de douloureuse tristesse dont se martyrisa la figure du vieil homme. Bien, bien, monsieur Paul, fit-il le corps secoué d'un frisson, je serai parti demain. Oh, pauvre monsieur Paul! Je sentais les larmes me venir aux yeux. Pourquoi dites-vous ce pauvre monsieur Paul, Père Valentin? Mais le bonhomme ne répondit pas. Il descendit de son échelle, ramassa son sécateur et partit. Le soir même de ce triste jour, ma femme avait pris possession de la maison, de l'écurie, du bûcher, du poulailler, de la remise et des greniers. Et partout, son regard avait dit aux choses, soumises et domptées, comme je l'avais été moi-même. Et il n'y a plus qu'un maître ici, et ce maître, c'est moi. Fini de rire, mes amis.